I'm turning today to the Gospel of John, chapter 13 and verse 1.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13 et au verset 1. L'Évangile de Jean, chapitre 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et notre sujet est laver les pieds des disciples. C'est un symbole qui a quatre applications, quatre leçons que nous allons considérer ce matin. Et notre premier point sera celui-ci. Laver les pieds des disciples symbolisait l'amour de Christ. Tout d'abord, mais pas entièrement que cela, mais c'était principalement un symbole d'amour. Est-ce que le prédicateur va simplement considérer ce passage et en découler en différents points ce qu'il imagine sont les applications ou les leçons à tirer? Est-ce que c'est ainsi que le prédicateur fonctionne? Est-ce qu'il utilise simplement son imagination? Oh, jamais nous n'aurions pensé que ce sujet pouvait être divisé ainsi en différents points. Ou est-ce que c'est implicite dans le passage qu'il y a quatre leçons à en tirer? Et j'aimerais montrer que le prédicateur n'est pas original, qu'il n'imagine pas quelque chose, mais que ces choses sont dans le passage. Au verset 1 tout d'abord, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. L'apôtre Jean dit, dans les versets qui suivent, que c'est là l'amour de Christ. C'est un commentaire général qui nous informe par rapport aux versets qui vont suivre. Sinon, ceci est hors de contexte. Et rien d'autre n'est dit par rapport à l'amour. C'est une introduction, et de manière évidente, nous devons comprendre de ce verset que tout ce que nous allons lire après cela est un accomplissement de ce verset et une démonstration de ce symbole de l'amour de Christ. Et j'aimerais également montrer que les autres points que j'aurai sont essentiels dans ce passage. Ainsi, c'est un symbole de l'amour de Christ. Et ces quatre leçons que nous allons en tirer sont très importantes. C'est un symbole d'amour. Nous voyons également dans ce premier verset que Christ savait ce qu'il allait faire. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, il savait qu'il y aurait la fête de la Pâque, le souper de la Pâque, et le jour d'après, il serait à la croix du Calvaire. Mais les disciples n'en avaient aucune idée. Ils pensaient encore, ils avaient encore la pensée que, en tant que Messie, il sera quelqu'un qui va dominer et qu'il va avoir la puissance, qu'il va retourner à Jérusalem pour avoir le royaume. Mais est-ce qu'ils ont écouté? Il les a avertis toujours à nouveau qu'il serait arrêté, qu'il allait être crucifié, qu'il allait ressusciter. Mais ils l'aimaient. Ils ont écouté tout ce qu'il a dit, sauf le fait qu'il allait mourir. Ils ne pouvaient pas accepter cette idée. Et ils pensaient encore qu'il allait être un grand messie terrestre et politique. Mais ils savaient que son heure était venue. L'heure qui était préparée dans l'éternité passée, où il viendrait pour souffrir et pour mourir. Il avait aimé les siens et il les aima jusqu'à la fin. Il savait ce qu'il allait faire en chaque étape. C'est le soir de la Pâque en 30 après Jésus-Christ. Il allait se laisser arrêter. Au verset 2, « Et lors du souper, Et j'aimerais expliquer que ce n'est pas la fin du souper. Ce terme, traduit par « lors du souper », est un terme qui a plusieurs sens en grec. Parfois, c'est le sens de quelque chose qui commence. Ainsi, nous décidons, par rapport au contexte, si c'est un terme qui signifie que c'est la fin du souper ou si c'est pendant le souper. Et notre traduction devrait être « et lors du souper, pendant le souper ». Comment est-ce que nous savons cela? Ce n'est pas encore la fin du souper, parce que vous pouvez voir jusqu'au verset 26, même s'il y a une interruption par le fait que le Seigneur lave les pieds des disciples, le souper continue. Et vous voyez que Judas planifie de le trahir, verset 26, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai un morceau trempé. Et le souper continue, il n'est pas fini au verset 2. Et lors du souper, pendant le souper, est une bonne traduction. Ou certains traduisent, et le souper ayant commencé, ou certains disent, au moment du souper. Le diable ayant déjà mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le trahir. Je vais laisser ce verset pour le moment de côté. Et j'aimerais en rester avec le verset 1. C'est un symbole d'amour. Jean omet entièrement le récit du souper qui est dans les autres évangiles. Ce n'est pas une contradiction, mais parce que Jean est le dernier évangile à être écrit. Jean a un autre but par rapport aux autres. Et Jean laisse souvent des choses de côté que Matthieu, Marc, Luc, l'un des trois ou les trois ont déjà raconté, parce que Jean sait que ceux qui lisent son évangile ont déjà lu les trois autres évangiles. Même s'il mentionne un certain nombre de choses qui ont déjà été mentionnées, il veut rajouter des choses qui n'ont pas été dites auparavant et qui nous montrent qui est Christ et comment il œuvre avec ses disciples et pour montrer sa gloire. Par inspiration de Dieu, il montre un autre aspect. Il n'y a aucune contradiction ici, mais il nous donne un certain nombre d'informations qui ne sont pas dans les autres évangiles. Et c'est là ce que Dieu l'a inspiré à faire. Et j'aimerais lire dans l'évangile de Luc au chapitre 22 pour que nous puissions voir certaines des choses que les autres évangiles ajoutent. Luc 22, verset 7. Cependant, le jour des pains sans levain arriva, dans lequel il fallait immoler la Pâque. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Et il leur dit, « Lorsque vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. « Suivez-le dans la maison où il entrera, et dites au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, toute meublée. Jean ne mentionne pas la chambre haute dans ce chapitre que nous considérons. « Préparez-y la Pâque. » Eux donc, s'en étant allés, trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui, et il leur dit, et ensuite nous avons le souper. Et l'évangile de Jean ne nous raconte pas cela, parce que nous connaissons ce récit, nous l'avons lu auparavant dans les autres évangiles. Il n'y a pas de contradiction. Certaines personnes ont essayé de dire que l'évangile de Jean a deux soupers. Et d'autres ont dit que l'évangile de Jean contredit les autres évangiles parce qu'il a le souper un jour avant les autres. Mais tout ceci vient du fait que certaines personnes ne comprennent pas ces passages glorieux. Dans Jean 13, verset 29, vous verrez ici, et ceci est en relation avec Judas à nouveau, car quelques-uns des disciples pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus lui disait « Achète ce qu'il nous faut pour la fête » ou « Donne quelque chose aux pauvres ». Et ils pensent « Oh, voyez-vous, La Pâque ne s'est pas encore passée et Jean a un autre souper qui se passe un autre jour. Et il y a des contradictions entre les évangiles. Non, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que là, au verset 29, la fête se réfère aux 7 jours de la fête. Ainsi, la Pâque, au chapitre 13, verset 1, et pendant la Pâque, Judas est envoyé. Les disciples pensent, et sont dans l'erreur, que le Seigneur a demandé à Judas d'acheter des choses pour la fête, mais il y a 6 jours encore. Ainsi, ce n'est pas surprenant qu'il pense cela. Il ne lui a rien demandé de tel, mais il y a encore 6 jours de fête pour la Pâque. Mais le jour important, c'est le premier jour. Ainsi, il n'y a pas de contradiction. Comment est-ce que nous savons quand au verset 29, l'apôtre Jean se réfère à la fête, que ceci se réfère à toute la fête? Parce que dans les évangiles, c'est toujours le cas. Certains qui sont critiques par rapport à la Bible ne connaissent pas la parole. Parce que quand ce terme « fête » est utilisé, c'est ceci se réfère toujours à toute la fête et pas simplement le soir de la Pâque. Ainsi, il n'y a pas de raison pour penser qu'il y a une contradiction. Certaines personnes viennent me voir et disent, des jeunes gens, en religion, on nous dit que Jean contredit les autres évangiles. Mais ceci, c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Il n'y a aucune contradiction entre les évangiles. Je suis désolée de passer du temps sur cela. Mais tout d'abord, c'est une fête d'amour. L'amour sera là en action. Le Seigneur Jésus-Christ va s'humilier devant eux et il va laver leurs pieds. Ils verront cet amour, que l'amour d'un chrétien qui suit l'exemple de Christ est pratique. L'amour agit et prend soin des autres et s'exprime en action, en acte. Et ceci sera démontré dans le fait que le Seigneur lave leurs pieds et sera également démontré à la croix du calvaire, où il va faire quelque chose pour tous ses enfants, comme un serviteur, dans ces jours-là, laver les pieds des invités qui entrent à la porte. Ils enlèvent leurs sandales et la poussière de leurs sandales sera lavée. Et Christ va s'humilier pour purifier, pour laver les autres. C'est un acte d'amour tout particulier. C'est un acte qui coûte cher. Pour la plupart des gens, ils vont penser que c'est quelque chose de très humiliant que de laver la poussière des pieds de leurs invités alors qu'ils entrent. Mais Christ va faire cela. Et il va se donner pour servir les autres. Les disciples ne comprennent pas. Et même après la croix du calvaire. Mais c'est mon premier point. Et j'aimerais continuer avec le deuxième verset qui m'amène au deuxième point. Laver les pieds des disciples, c'est un symbole de l'humiliation de Christ. Il semble leur dire, vous pensez que à présent, je vais être Seigneur et Roi d'Israël et que d'une certaine manière, je vais lever une armée pour écraser l'occupation romaine et rendre cette nation prospère à nouveau et puissante. Non, il dit dans ce symbole, je ne vais pas faire cela, je serai humilié. Vous devez comprendre cela, je suis venu de la gloire du ciel pour souffrir l'humiliation, pour prendre la place de tous ceux qui seront sauvés, pour souffrir leur humiliation à leur place. Ceci montre l'humiliation du Seigneur à la croix du calvaire. Quand nous parlons de la croix du calvaire, nous appelons cela l'expiation. Et savez-vous, les puritains appelaient la croix du calvaire l'humiliation, très souvent. Bien sûr, ils croyaient dans l'expiation, mais ils préféraient ce terme humiliation, parce que ceci nous parle, il a été humilié pour nous. Il est venu de la gloire céleste sur cette terre, dans cette profondeur de l'enfer, non pas littéralement l'enfer, mais il est venu sur cette terre, dans la profondeur de l'enfer, pour prendre notre enfer à notre place, dans la profondeur des ténèbres. Ainsi, dans le temps, les puritains l'appelaient l'humiliation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le prix qu'il a payé. Et alors que nous continuons dans ces versets, au chapitre 13, « Et lors du souper, verset 2, le diable ayant déjà mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le trahir, Satan, je mentionne ceci en passant, aide le plan, le dessein divin sans le vouloir. Satan, dans sa haine, en essayant de faire souffrir le Seigneur et de le faire mourir si possible, il œuvre dans le cœur de celui qui va le trahir. Et il ne sait pas que ceci va aider le plan, le dessein divin. Et c'est ainsi que Dieu l'a préparé, que Judas va trahir le Sauveur. Et il est dit ici au verset 2, « Le diable ayant déjà mis au cœur de Judas. » Quand nous pensons à ceci, pourquoi est-ce qu'il n'est pas écrit qu'il a mis dans l'esprit de Judas, dans la pensée de Judas? Je pense que ceci serait vrai également, mais c'était dans son cœur. Judas était à ce moment-là rempli de mépris pour le Seigneur. Ceci, c'est un problème de cœur. Peut-être que le chapitre précédent, au verset 32, a été le dernier coup dur pour Judas. Quand Christ a dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi », peut-être que c'est là qu'il a compris qu'il mourra. Il va recevoir l'hostilité des pharisiens, il sera martyr, il va mourir martyr. Mais Judas pensait qu'il serait celui qui va conquérir les Romains, puissant. C'est là ce qu'il dit, il va mourir. Pourquoi est-ce que moi, Judas, j'ai perdu mon temps à le suivre? Je l'ai suivi pendant 3 ans. J'ai abandonné ce moment de ma vie, cette période de ma vie, pour être près de celui qui va être un roi puissant. Et moi, je voulais être quelqu'un de grand dans sa cour. Mais il va mourir. Il est un insensé. Il est fou. Et tout sera perdu. Et moi, je serai en danger. Parce que dès qu'ils vont l'exécuter, alors ils vont essayer d'arrêter également ses disciples. Ainsi, il prépare et il va le trahir. Il veut sauver sa peau et également il veut gagner quelque chose aux yeux des autorités, le prix d'un esclave. Mais c'est quelque chose qui se passe dans son cœur, ce mépris pour le Seigneur et une sorte de revanche. Au verset 3, Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Pourquoi est-ce que l'apôtre Jean nous dit ceci? Pourquoi est-ce qu'il nous dit Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains, toute autorité, et que c'était comme si la croix du calvaire s'était déjà passée et qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu? Parce que le verset qui suit dit « Il se leva du souper, ôta son manteau. » Jean veut que nous sachions que Christ a accompli ce symbole de son humiliation. Il s'est humilié pour laver les pieds des disciples à la lumière du fait que, et en sachant qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il retourne à Dieu, et qu'il allait accomplir toute chose à la croix du calvaire, qu'il allait retourner dans la gloire céleste, et même à la lumière de ceci, sachant qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il s'est humilié, et il leur a lavé les pieds. C'est pour cela que Jean insère ce verset ici. Christ s'est humilié, en sachant très bien sa gloire, sa position. Et nous, si souvent, nous ne pouvons pas nous humilier, Même si nous savons que nous n'avons aucune position, aucune gloire, ceci est surprenant. Et le Fils de Dieu s'est humilié. En sachant toutes ces choses, au verset 4, se leva du souper. Après avoir lavé les pieds des disciples, il va s'asseoir à nouveau. Pourquoi est-ce que il lave les pieds des disciples maintenant, alors qu'ils ont déjà commencé le souper? Et d'une manière évidente, ceci n'avait pas été fait auparavant. Quand les disciples sont montés par ces escaliers qui étaient là en dehors du bâtiment, qui sont entrés dans la chambre haute, personne n'a lavé les pieds des disciples. Pourquoi est-ce que Pierre ne l'a pas fait? Pourquoi est-ce qu'aucun d'entre eux ne l'a fait? Ce n'était pas leur position, leur travail. Il n'y avait pas de serviteur autour pour le faire. Ainsi, personne ne l'a fait. À présent, le Seigneur le fera lui-même. Ils se sont mis à table. Il sait ce qu'il fera. Il les laisse tous s'asseoir. Et ensuite, il va commencer le souper. Puis, il va interrompre le souper. Et il va laver les pieds des disciples. Une tâche que l'un d'entre eux aurait dû faire. Ils avaient besoin de cet exemple. Dans l'évangile de Luc et dans Matthieu et dans Marc, nous lisons que juste avant que ceci ne se passe et qu'ils entrent dans la chambre haute, ils se sont disputés par rapport à qui est le plus grand parmi eux. Ainsi, peut-être que les choses leur étaient montées à la tête avant qu'ils n'entrent dans cette chambre. Ils désiraient, ils rêvaient d'être grands dans la cour du Messie. Et Christ les ramène à leur bon sens. Je fais à présent quelque chose que personne d'entre vous n'a voulu faire. Et je vais le faire et leur démontre son humiliation en même temps. Se leva du souper, au verset 4, il ôta son manteau. Comme le serviteur aurait fait, c'est son manteau au-dessus de son vêtement. Et ayant pris un linge, il s'en saignit. Ce linge, cette serviette, était là pour essuyer les pieds alors qu'il les lavait. Comme le récit nous le dit, au verset 5, « Ensuite, il a fait ceci lentement, d'une manière solennelle. C'est un symbole, une démonstration. Ainsi, vous avez ces commentaires de l'apôtre Jean. Ensuite, il veut nous montrer ces choses étape par étape. Et il ralentit là dans le récit. Ensuite, il mit de l'eau dans un bassin, dans une bassine. Cette description est délibérée. Et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. » C'est là mon troisième point. C'est un symbole de purification. Il vint donc à Simon-Pierre. Je pense que la plupart des commentaires de nos jours vont vous dire que on ne sait pas parmi les disciples à qui le Seigneur a lavé les pieds en premier. Et ensuite, il y a Simon-Pierre plus tard. Mais plus les commentaires sont anciens, plus l'approche est différente. Par exemple, Jean Calvin dit que c'est évident que Simon-Pierre était le premier à qui le Seigneur a lavé les pieds. Il y a des années, les commentateurs voyaient ce passage de manière si différente et ils voyaient le verset 5 comme un verset général de résumé. Il a commencé à laver les pieds des disciples et ensuite au verset 6, il y a quelque chose de particulier. Ensuite, il en arrive à Simon-Pierre. Ainsi, les commentateurs d'autrefois disent qu'il était le premier. De nos jours, on dit « nous ne savons pas ». Est-ce que c'est important? Probablement pas, sauf que c'est logique que ce soit la première personne qui proteste. Et ensuite, ceci éclaire la signification de cet acte pour tous les autres. Il vint donc à Simon-Pierre, qui lui dit avec stupéfaction, « Toi, Seigneur !» Et il souligne « Toi et moi, toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Pierre est stupéfait. Celui à qui il a dit « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Saint envoyé du ciel. Tu me laves mes pieds à moi ?» Ce devrait être dans le sens inverse, « Seigneur, non, je ne veux pas accepter cela. » Il ne savait pas que c'était un symbole. Et c'est là ce que nous attendons de Pierre. « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds. Celui qui est supérieur ne peut pas laver les pieds de celui qui est inférieur. » Ensuite, il y a une autre pensée dans l'esprit de Pierre. « Seigneur, si quelqu'un doit laver les pieds, c'est quelque chose que moi je peux faire. » Et bien sûr, le Seigneur peut lui dire « Non, c'est un symbole. Tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas aller à la croix du calvaire, tu ne peux pas mourir pour les pécheurs, tu n'es pas qualifié, tu ne peux pas faire cela. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire. Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds. » Et il reçoit cette réponse au verset 7. Jésus répondit et lui dit « Tu ne sais maintenant ce que je fais, c'est un symbole, mais tu le sauras dans la suite. » Après la croix du calvaire, tout ceci sera clair à l'esprit de Pierre. Et Pierre continue en verset 8. Pierre lui dit « Jamais tu ne me laveras les pieds. » Oui, c'est une bonne chose de la part de Pierre dans un certain sens. Il ne sait pas que c'est un symbole. « Tu ne peux pas me laver les pieds. » Mais il n'a pas réalisé. Bien sûr, il ne devrait jamais dire non au Seigneur. L'obéissance est bien mieux que le service. Le service est merveilleux, de servir le Seigneur, mais l'obéissance est plus importante. Et Pierre a oublié ceci, l'obéissance. « Je suis un serviteur, dit-il, je suis ton serviteur, Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds. » Mais l'obéissance est plus importante. Et ceci est important pour la vie chrétienne, pour chacun d'entre nous, l'obéissance avant tout. L'obéissance est plus importante que l'adoration. Même si l'adoration est importante, l'obéissance est plus importante que le service. Certaines personnes mettent les choses à l'envers. Pourquoi est-ce que vous dites que nous ne pouvons pas avoir d'orchestre et de bande et avoir toute cette musique du monde? Non, nous servons le Seigneur. Non, ce qui est important, c'est l'obéissance avant tout, avant le service et l'adoration. Et Pierre a désobéi au Seigneur. Ceci nous enseigne également cela. Vous devez parfois obéir à certaines choses que vous ne comprenez pas encore. Quand vous êtes sauvé au départ, quelqu'un vous dit « L'une des règles du Seigneur, c'est de garder le jour du Seigneur. » Peut-être vous répondez « Je ne comprends pas cela. Je ne comprends pas cela. » Peu importe, vous devez obéir. Parce que c'est un commandement du Seigneur et vous lui appartenez à présent. Vous êtes un enfant du Seigneur. Peut-être qu'après quelques semaines, quelques mois, quelques années, vous comprendrez l'importance du jour du Seigneur. Mais votre obéissance ne doit pas attendre que vous compreniez. Si le Seigneur le dit, vous le faites. N'oubliez jamais cela. Et là, Pierre est dans l'erreur. « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » C'est un symbole, Pierre. Il aurait pu lui dire, « C'est un symbole de ce que je vais faire pour te purifier. Si je ne te lave pas, dans le symbole et littéralement à la croix du calvaire, alors tu n'as pas de part avec moi, tu ne peux pas être mon disciple. » Pierre, au verset 9, et je pense que ceci est extraordinaire, vous voyez à présent le prédicateur naturel en Pierre. En quelques jours presque, quelques semaines, il sera le premier prédicateur de l'Église chrétienne et il va prêcher cette prédication extraordinaire, bien sûr sous l'inspiration du Seigneur, mais cette prédication du jour de la Pentecôte. Et le prédicateur est là en lui, dans une certaine mesure, même naturellement. Simon-Pierre lui dit, à présent il change d'avis, rapidement, et c'est là ce qu'il devait faire, « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête, c'est une prédication. » Ce n'est pas une bonne idée et le Seigneur va le reprendre, mais c'est comme une prédication. « Seigneur, tu laves mes pieds, je comprends cela, mais Tu dois également laver ma marche avec mes pieds. Je marche sur la terre avec la poussière de la terre. Je peux comprendre l'illustration, même s'il est dans l'erreur, mais sa pensée fonctionne comme la pensée d'un prédicateur. Je dois être purifié à cause de toute cette contamination, cette souillure de la terre. Mais non seulement mes pieds, mais également mes mains, mes œuvres et ma tête, ma pensée. Il a compris tout de suite cette illustration à trois points du croyant. Il est dans l'erreur là, mais il a compris, il a ces trois points dans cette prédication. J'ai besoin d'avoir mes pieds, mes mains et ma tête purifiées. Le Seigneur lui dit « Non, non, Pierre, tu es sur le mauvais chemin. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné, celui qui a pris un bain, qui est lavé, a besoin seulement qu'on lui lave les pieds pour être sûr qu'il soit entièrement pur et lavé. » L'illustration ici que le Seigneur a à l'esprit, c'est le salut et la sanctification. Dans le symbole du fait de laver les pieds, le symbole que la croix du calvaire purifie du péché, la justification devant Dieu, nous sommes acceptés et convertis, justifiés devant Dieu, vos péchés sont pardonnés. Mais vos pieds sont en contact jour après jour avec le monde, avec la terre, et vous devez être sanctifiés et pardonnés jour après jour de vos péchés quotidiens. C'est là la distinction entre le salut et la sanctification. Celui qui s'est baigné a besoin seulement qu'on lui lave les pieds, et Pierre doit prêcher sa prédication en trois points à un autre moment. Mais vous êtes pur. Comment est-ce que nous savons que ceci est un symbole de la purification? À la fin du verset 10, mais non pas tous, non pas tous. Judas n'était pas pur, parce qu'il savait qui était celui qui le trahissait. Vous voyez ici la signification spirituelle. Il y en a un qui n'a pas été pardonné, purifié. Les disciples à présent sont des hommes sauvés, même avant qu'ils ne comprennent entièrement comment ceci sera fait, accompli à la croix du calvaire. Mais ils dépendent entièrement du Seigneur à ce moment-là. Ils sont convertis. Et au verset 12, et j'en arrive à la conclusion, mon quatrième point, c'est un symbole d'humilité. La première leçon, c'est un symbole de son amour. La deuxième leçon, ceci symbolise son humiliation. La troisième leçon, ceci symbolise sa purification des disciples. Et la quatrième leçon, ceci symbolise leur humilité. Après donc qu'il leur eut lavé les pieds au verset 12 et qu'il eut repris son manteau, s'étant remis à table, il leur dit « Savez-vous ce que je vous ai fait ?» Il les appelle à réfléchir. « Vous m'appelez maître et seigneur, c'est-à-dire enseignant et celui qui règne. Vous ne pouvez pas avoir de titre plus élevé, maître et seigneur. » Et vous dites vrai, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Non pas littéralement, mais nous devons faire ce que ceci représente. Et nous devons être humbles, et nous aimer les uns les autres, et prendre soin l'un de l'autre. Ce n'est pas un commandement. Une minorité de chrétiens dans le monde, dans certaines dénominations, inclut le fait de laver les pieds au moment de la Sainte Cène. C'est très rare, mais certaines personnes font cela, et prennent ceci comme un commandement de la part du Seigneur. Mais ceci n'est pas un commandement, parce que ceci ne semble pas être fait à aucun moment dans le Nouveau Testament. Les disciples ne l'appliquent pas littéralement, mais voient ceci comme un symbole de comment nous devons nous humilier l'un devant l'autre. Verset 16, en vérité, je vous le dis, une déclaration solennelle, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Vous pensez à l'œuvre de Christ, tous ses efforts. Il a vécu en tant qu'homme pauvre, et vous pensez à sa patience extraordinaire, sa patience, sa persévérance. Il se donne, et son sacrifice, en particulier la croix du calvaire. Pensez à son amour. Et il plaide constamment, il invite les hommes et les femmes à lui. C'est un exemple à suivre. Ceux qui lavent les pieds des autres dans une métaphore, comme un symbole. Je me rappelle que j'ai entendu un prédicateur sur un enregistrement. Quelqu'un m'a dit « Oh, écoute cette prédication et dis-moi ce que tu en penses. » Et j'ai écouté. 50% de la prédication était des anecdotes. Et ces anecdotes étaient centrées sur cet homme, sur lui. Et il nous parlait de tout ce qu'il disait, qu'il était bon à ceci, à cela. Et dans toute conversation avec les gens, il y avait les réponses les plus extraordinaires. Ces anecdotes amenaient l'attention sur lui-même et rien d'autre. Et il était connu dans son temps. Beaucoup de gens aimaient l'entendre. Mais, chrétiens, écoutez la parole de Dieu. Lavez les pieds des disciples. Chaque chrétien devrait savoir par instinct que un prédicateur tel que celui que j'ai entendu est dans l'erreur, si loin de ce que le Seigneur attend de nous. Serviteur de Christ, Christ s'est humilié et nous, nous sommes rien. J'ai mentionné ceci auparavant, mais dans ces jours d'Internet où il y a ces prédicateurs sur Internet qui font tant de publicité pour eux-mêmes, c'est l'opposé même de l'attitude de Christ, de la manière de se comporter de Christ. Ceci nous montre qui nous devons éviter. Et nous ne pouvons pas faire confiance à ces gens. Et ces choses à la télévision, sur les chaînes de télévision religieuses, il y a 90% de ces gens se mettent en avant. Ils veulent être applaudis des autres, être célèbres. C'est l'opposé même de Christ. Certains prédicateurs parlent si fort et ils intimident les gens, ceux qui les écoutent, et ils dominent sur la foule. C'est une nouvelle école de pensée, mais c'est l'opposé même de la manière de faire de Christ, de ce que Christ nous enseigne. Ceci devrait nous avertir l'humilité. Une opinion petite de nous-mêmes, c'est là ce que nous voulons encourager. Tout est contre nous. Nous sommes contre notre ancienne nature. Nous avons une nouvelle nature, mais l'ancienne nature est encore là, au fond de nous-mêmes, et veut s'exprimer. Et votre ancienne nature est orgueilleuse et ne veut pas l'humilité. Mais n'écoutez pas votre ancienne nature, parce que Dieu est l'orgueil. Et l'orgueil ne peut pas aimer. Et c'est là une généralisation peut-être trop facile, mais peut-être 80% des problèmes dans la famille, dans le couple, sont dus à l'orgueil. Parce que l'orgueil ne peut pas aimer. L'orgueil peut uniquement s'aimer soi. Ceci est important pour nous que de maintenir l'humilité. L'orgueil laisse de côté la méditation personnelle quotidienne. Il y a d'autres choses qui contribuent, mais que de laisser de côté la méditation personnelle quotidienne et à la place de cela, de se mettre devant la télévision ou toutes sortes d'autres choses. Alors vous devez avoir beaucoup de confiance en vous-même pour faire cela. Quelque chose en vous dit « Ceci ne me fera pas de mal. Je peux faire ceci pendant quelques jours, pendant quelques semaines. » Quelque chose en vous dit « Je suis stable et fort spirituellement. » C'est l'orgueil. Parce que si vous étiez dans la crainte, et je me parle à moi-même également, si nous étions dans la crainte et humbles, nous ne ferions pas cela, nous nous dirions « nous sommes en danger, Je commence à être rétrograde si je laisse ma méditation personnelle de côté, si je ne prie pas, si je n'ai pas ce moment pour le Seigneur, cet amour pour Dieu. Oh, je ne suis pas fait d'acier, si le monde rentre dans ma vie, alors je vais chuter, trébucher, tomber, dans différentes manières. Mais l'orgueil nous dit le contraire. Ce n'est pas simplement les réseaux sociaux et le divertissement, mais c'est l'orgueil qui pense que tout ira bien et que je peux me le permettre. Au verset 17, et pour conclure, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Christ va utiliser ceux qui sont humbles. Christ va nous accorder du fruit et d'être des instruments utilisés par lui, par son esprit. Il va nous donner l'assurance, il va nous donner une compréhension plus grande, il va nous donner un ministère d'intercession dans la prière, il va nous utiliser, il va entendre notre prière. Et alors, nous serons heureux, extrêmement heureux. Si vous savez ces choses, nous les savons. Vous êtes heureux, bénis, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. C'est un symbole. Laver les pieds des disciples, c'est un symbole d'abord d'amour. Deuxième point, de l'humiliation de Christ, de ce qu'il va endurer pour nous. Troisième point, un symbole de purification. Quatrième point, un symbole ou un exemple de notre humilité.